Radio Okapi.
Le journal Blaise Oshindani.
Malgré la fin de l'épisode du tiraillement entre les présidents de deux chambres du Parlement concernant la désignation du juge constitutionnel qui devrait remplacer celui décédé, les députés nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri se disent choqués du comportement irresponsable de ces deux présidents. Bientôt un ouf de soulagement concernant les gazoles et les kérosènes dans l'ouest du pays. Un des bateaux transportant ces produits est arrivé au port de Matadi ce jeudi. Selon le ministre des Hydrocarbures, ces produits arriveront à Kinshasa dans 3 jours. La désinformation est l'un des principaux facteurs qui perturbent la communication entre la population et les forces de sécurité dans la région de Beni, pourtant une zone opérationnelle. Comment porter solution à cette crise? Nous en parlons avec le capitaine Anthony Mwalushiai, porte-parole des opérations militaires Sokola 1 Grand Nord. Voilà tout pour les titres. Mesdames, messieurs, bonjour. Fini l'affrontement entre le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat au sujet de la désignation du juge de la Cour constitutionnelle, la tenue du congrès portant désignation du remplaçant du juge décédé Polycarpe Mungulu est enfin confirmée pour ce vendredi. En dépit de ces terrains d'entente trouvés entre les deux chambres, les députés nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri se disent déçus de ce comportement irresponsable des présidents des deux chambres qui perdent leur temps à se disputer sur les futilités. Pour Gratien Irakan et Jean-Baptiste Mouindo, toutes les institutions du pays devraient se mobiliser pour soutenir l'armée congolaise, défendre la ville de Goma face à l'agression rwandaise et combattre toutes les forces négatives en Ituri et au Nord Kivu. Michel Kifindangoy.
Les attaques armées du M23 tout autour de Goma devraient mobiliser toutes les institutions dont le Parlement pour soutenir les FARDC et défendre le territoire national, estime Jean-Baptiste Mouindo.
Les territoires de Diragongo et de Rutshuru sont victimes d'une nouvelle agression à partir du Rwanda sous couvert du M23. Notre armée est confrontée à des attaques sur plusieurs fronts. Malheureusement, les chefs des institutions à Kinshasa sont préoccupés par la planification de la fraude électorale à se disputer le contrôle de la Cour constitutionnelle.
Les députés Gratien Irakan justifient la crise sécuritaire dans l'est du pays par l'irresponsabilité et l'incompétence des autorités nationales.
Que dire d'un gouvernement qui refuse d'appliquer les résolutions de la représentation populaire nationale? Que dire d'un bureau amorphe au sein de l'Assemblée nationale? Pour nous, la solution est d'identifier d'une façon responsable des Congolais patriotes et de les doter des armes appropriées pour défendre notre territoire conformément à l'article 63 de notre constitution.
Pour Gratien Irakan, certains responsables de ce pays devraient être poursuivis pour haute trahison.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, les habitants déplacés des villages Kibumba, Kanyanja, Kabaya et Kibati, concentrés actuellement à Kanyarushinya, dans le groupement de Munigi en territoire de Nirangongo, poussent un cri de détresse au gouvernement ainsi qu'aux organisations humanitaires pour une assistance humanitaire urgente. Ces familles estimées à 15 000 ménages sont dépourvus de denrées nécessaires pour leur survie. Depuis mardi dernier, ils vivent la peur au ventre dans un environnement malsain. Pas d'eau ni de nourriture, les toilettes sont quasi inexistantes et les risques de maladies d'origine hydrique sont imminents, affirmait-il, comme le témoigne cet habitant rencontré ce jeudi dans les sites de Kanyarushinya.
Moi, venant de Kibumba, nous sommes au niveau de Kanyarushinya comme des placins.
Et comment vous vivez?
Nous peinons les femmes, tant que les hommes et même les enfants aussi souffrent. Nous n'avons pas l'abri, nous manquons comment manger, voire même au niveau de la vie sanitaire, rien ne va. Les enfants font leurs gras besoins n'importe où. L'eau à boire, nous manquons ça, ainsi de suite, vraiment. Nous supplions le gouvernement de nous venir en aide parce que nous souffrons d'une façon là misérable.
Ces déplacés ainsi que les acteurs de la société civile plaident pour une assistance urgente pour éviter ce qu'ils qualifient du désastre humanitaire. Toujours au Nord Kivu, depuis le début de cette semaine, la commune rurale de Kibumba et ses environs est cible de nouvelles attaques des rebelles du M23. Cette entité d'environ 30 000 habitants s'est vue du coup vider la quasi-totalité de sa population mercredi. Cette situation est la énième du genre que ses chefs-lieux du territoire de Nirangongo depuis plus de deux décennies. Bernadette Nyangi nous donne les détails.
Située sur la route nationale numéro 2 à 29 km de Goma, la commune rurale de Kibumba vit son énième épisode de menace sécuritaire. Limitrophe du chef-lieu de la province, Kibumba est une zone maraîchère qui fournit la grande quantité de légumes consommés à Goma et dans les villes voisines de la province de Rubavu, Rwanda. Depuis pratiquement plus de 20 ans, Kibumba est confrontée à des périodes sombres. Dans un passé récent, elle hébergeait un des plus grands camps de réfugiés hutu-rwandais avant la rébellion de l'AFDL. Plusieurs bus et des humanitaires sautaient sur des mines dans la région de Kibumba vers les années 1996. Lors de la rébellion du CNDP, Kibumba était sous le feu croisé de la rébellion contre l'armée congolaise appuyée par la MONUC en octobre 2008. C'était quand la mission empêchait les hommes de Laurent Kunda d'avancer vers la ville de Goma. Le M23 de Makenga, lors de ses offensives de 2012 et 2013, avait à plusieurs reprises pris d'assaut les positions des FARDC dans la zone de Kibumba. C'est dans Kibumba qu'en mars 2013, le général Deshi Bosco Ntaganda avait abattu à bout portant une dizaine de militaires M23 avant de déclarer une dissidence contre le camp Makenga Bertrand Bissimwa et celui de Runiga Bosco Ntaganda. Goma, Bernardin Yangi, Radio Okapi.
Rendons-nous à l'Ituri, près de 40 écoles dont 28 du primaire ne fonctionnent plus depuis une année dans le secteur de Banyali-Kilo, à plus ou moins 60 km au nord de la ville de Bunia, dans le territoire de Djougou en Ituri. C'est à la suite des attaques de la milice Codeco. Selon les présidents de la communauté Niali, cette insécurité a poussé les enfants à fuir leurs entités pour se réfugier avec leurs parents à Mongwalou et à Bunia. Ils souhaitent que le processus de paix amorcé par le gouvernement puisse aboutir au retour d'une paix durable dans cette zone. Ézéchiel Mouzalia.
C'est depuis plusieurs années que des miliciens de la Codeco commettent des exactions contre la population et s'en prennent aux infrastructures scolaires et sanitaires dans plusieurs entités du territoire de Djougou. Dans les secteurs de Banyali-Kilo, par exemple, de nombreuses familles sont obligées de fuir leurs entités pour se réfugier dans des endroits jugés sûrs pour leur sécurité. Selon le président de la communauté Niali, on compte à ce jour 28 écoles primaires et 11 du secondaire qui ne fonctionnent plus à cause de ces atrocités. Il cite notamment l'épée Kilo Mission, Torguer, Institut technique agricole d'Itendei, dont les élèves ont fui avec leurs parents à Mongwalou et à Bunia. L'unique établissement scolaire dans le village Abelkozo a été fermé à cause des récentes attaques de ces rebelles qui ont coûté la vie à 18 personnes. Vital Tungulo.
28 écoles actuellement, elles sont toutes fermées. La jeunesse est l'avenir de demain et tous ces enfants-là qui aujourd'hui n'ont pas l'accès à l'éducation, demain ils sont exposés. Vous voyez, notre région est une région minière et ces enfants-là risquent d'abattre. Il y a même les affaires d'école, un grand danger pour la province.
Signalons que la plupart de ces élèves ont été délocalisés dans des écoles de Mongwalou et de Bunia pour passer leurs épreuves préliminaires de l'examen d'état. Bunia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Nous l'avions dit en titre, bientôt un ouf de soulagement concernant les gazoles et les kérosènes dans l'ouest du pays. Un des bateaux transportant ces produits est arrivé au port de Matadi ce jeudi. Le ministre des Hydrocarbures, qui l'a dit, annonce aussi que dans trois jours, ils pourront déjà arriver à Kinshasa. C'est depuis quelques semaines que le kérosène est rationné dans l'ouest du pays, ce qui a entraîné la réduction des vols des compagnies d'aviation. Et depuis plus d'une semaine, des longues files de motos et de véhicules diesel sont aussi visibles dans les stations-service de Kinshasa, la capitale notamment. Comme nous venons de l'indiquer précédemment, ici à Kinshasa, la réduction du nombre de vols de compagnies d'aviation a un impact sur le commerce de produits frais, notamment en provenance de l'est du pays. Il devient difficile de trouver certains articles, nous dit Aubin Abedi dans ce reportage.
C'est notamment le cas du fromage, des saucisses, de la viande de bœuf, des chèvres, des poissons salés, des choux-fleurs, pour ne citer que cela. Le gérant du supermarché Aliment de la RDC, qui propose des produits de plusieurs provinces, essentiellement affrétés par avion, explique.
Pour avoir les saucisses de Goma, les fromages et la viande fraîche, en tout cas c'est très difficile, même les pommes de terre. Je suis en rupture de stock depuis la semaine passée.
L'alimentation du Kivu, une des grandes maisons spécialisées dans le commerce de produits du Kivu, se plaint aussi de cette irrégularité. régularité de vol. Avec cela, difficile de savoir exactement quand on sera approvisionné, nous dit-on. Crispin Bikulo, responsable de l'agence Mama Bora qui fait le fret entre Kinshasa, Goma, Lubumbashi, dit travailler à perte. Il lance un SOS aux autorités du pays.
Nous demanderons aux autorités de trouver une solution pour nous parce que le travail, ça ne tient pas. Le vendredi passé, on a déposé les colis à Goma. C'est aujourd'hui, mercredi, que nous avons livré les colis.
La partie ouest de la RDC fait actuellement face à une pénurie de kérosène et de gasoil. En attendant la solution, le gouvernement avait recommandé aux compagnies aériennes de réduire la fréquence de leurs vols.
Situation du Covid-19 en RDC. Après une période d'accalmie, quelques cas, surtout importés, commencent à se manifester à Kinshasa, mais surtout dans des provinces comme le Lualaba. Le pays n'est pas encore dans la cinquième vague, mais le risque est réel, estime le docteur Jean-Marie Kayimbi, chargé de la prise en charge des maladies au secrétariat technique de la riposte. Il appelle la population au respect des gestes et barrières et à se faire vacciner. Jean-Marie Kayimbi est joint au téléphone par Babel Mpongo Massimango.
Nous sortons d'un répit où on avait pratiquement zéro cas, notamment à Kinshasa. À l'heure actuelle, nous assistons à une recrudescence plus marquée dans des provinces comme le Lualaba. À Kinshasa, je dois dire que la tête est en train de sortir de l'eau. Là où on avait zéro, on a aujourd'hui quelques cas, même si ce n'est pas encore une allure totalement inquiétante. Si ça se prolonge comme ça, juin, avec les vacanciers, parce que nous avons ici la plupart des cas, surtout encore une fois, d'importance. Nous devons redouter absolument la cinquième vague. Jamais on a décrété un monde free Covid. Jamais on a dit que c'était fini d'observer les mesures barrières. Il faut encore beaucoup de compliance aux mesures barrières qui, jusqu'ici et dans notre contexte, ont montré leur efficacité. Il y a bien sûr le vaccin qui est encore très faible en ce qui concerne l'adhésion populaire, mais les preuves sont faites pour dire qu'il protège quand même, en tout cas contre les forces grave de la maladie.
En santé toujours, déjà plus d'un mois depuis que la 14e épidémie d'Ebola a été déclarée officiellement dans la ville de Mbandaka. Les trois premiers décès liés à la maladie sur les trois cas confirmés ont eu lieu dans la zone de santé de Mbandaka. Mais le quatrième décès a eu lieu le 20 mai dernier dans la commune de Wangata et zone de santé du même nom. Là-bas, il y a une forte agglomération de peuples autochtones pygmées. Elle s'est dit cependant marginalisée puisqu'elle n'est pas impliquée dans la sensibilisation en cours plutôt à travers la ville. L'un de leaders est monté au créneau afin de demander le recrutement de quelques pygmées dans cette activité. Jean-Clément Nzele et Kaloli est au micro de Paul Richard Malengela.
On est dans le regret, on ne sait pas. Un seul pygmée ne peut pas sensibiliser comme les autres. Nous, on n'est pas impliqués. On ne connaît même pas comment si l'activité a commencé. Mais on connaît bien que nous sommes dans la même ligne, dans les mêmes conditions, dans le même endroit avec les amis. Ils passent faire la sensibilisation vers nous, mais nous, on ne peut pas faire la sensibilisation vers eux. Non, c'est malheureusement probable. Ça, c'est la discrimination totale. Nous demandons aussi à nos partenaires qui sont ici présents, comme l'OMS, comme l'Oxfam, l'UNICEF, il y a Aluma, il y a Corps médical, il y a MCF qui sont ici présents, il y a la Croix-Rouge, sans eux aussi de nous, peuples autochtones pygmées qui sont dans la province de l'Équateur. Alors, s'il n'y a pas ça, nous allons se révolter de dire que non, de venir vers nous. Sinon, ça sera mauvais. Nous demandons la paix, la cohésion, nous demandons aussi l'amour qui est placé devant nous, l'unité qui s'assoit là, que nous soyons ensemble de travailler pour arrêter cette épidémie-là. Ce n'est pas que le pygmée ne peut pas avoir cette maladie. Non, si le pygmée trouve aujourd'hui cette maladie, comment il doit reconnaître ça? C'est-à-dire par la sensibilisation.
L'incident manager qui coordonne la riposte a indiqué que le recrutement des sensibilisateurs est du ressort de la division provinciale de la santé. Toutefois, il convient de noter que c'est là par zone de santé, étant donné que l'actuelle riposte d'Ebola a adopté l'approche zonale. À Kikwit, dans la province du Kwilu, les violons ne s'accordent pas entre la population et les maires de cette ville, Léonard Moutangou. À la base, celui-ci avait signé la semaine dernière un document dénommé acte de cession provisoire du stade de Kazamba en construction pour accueillir dans quelques jours plus de 200 réfugiés congolais qui seront rapatriés volontairement d'Angola. C'est là sur demande du HCR au commissariat pour les réfugiés. La société civile qui suspecte ces rapatriés, pensant qu'ils ne sont pas congolais d'origine, dit non à cette décision du maire de la ville. Le tout avec Irène Boma.
La société civile de la ville de Kikwit se pose les questions de savoir notamment la vraie nationalité de ces prétendus réfugiés de l'Angola et leur province d'origine en RDC s'ils sont réellement des Congolais. Selon le président Laurent Bouenia, cette décision du maire de la ville de Kikwit, Lionel Mutangu, consistant à céder le stade de Kazamba pour héberger ces inconnus, agite farouchement la population. Il pense que la dite cession cacherait quelque chose, raison pour laquelle il la réfute carrément.
L'opinion ne digère pas cette blague de mauvais goût, surtout que dans ce stade, il y a des conteneurs dont on ne connaît pas le contenu et ce stade est à côté du camp militaire. La population ne veut pas que cette réalisation ait lieu.
Et pour sa part, Léonard Mutangu précise qu'il s'agit bel et bien des Congolais en provenance de l'Angola qui devaient être rapatriés volontairement par les HCR au mois de juin prochain.
Les HCR organisent les retours volontaires. Pour l'AS qui quitte, ils ont choisi les sites dans le stade en construction. J'ai fait un écrit. Les gens de mauvaise foi politique, ils ont transformé ça à un accord pour amener les Rwandais ici et autres.
Notez qu'à la suite de toutes ces rumeurs distillées sur ces dossiers, l'autorité urbaine vient d'annuler sa décision. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Guerre en Ukraine, la Russie un peu plus mise au banc de la communauté internationale. Cette fois, c'est l'OMS qui condamne l'attaque du régime de Vladimir Poutine sur l'Ukraine et ses centres de santé. La résolution ne demande pas pour autant des sanctions contre Moscou qui a tenté un coup de bluff en présentant son bon prétexte. Centrafrique vers une levée du verrou limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels après des mois de polémiques sur la volonté du président Touadéra de changer la constitution pour pouvoir se présenter en un troisième mandat. Les choses se sont clarifiées jeudi 26 suite à une conférence de presse du président de la commission Institutions et démocratie de l'Assemblée nationale.
L'invité.
La désinformation est l'un des principaux facteurs qui perturbe la communication entre la population et les forces de sécurité dans la région de Beni, pourtant une zone opérationnelle. Comment porter solution à cette crise qui ne facilite pas l'aboutissement du processus de pacification de la région? Nous en parlons avec le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations militaires Sokola 1 Grand Nord. Il répond aux questions de Marc Marofimbo.
Capitaine Anthony Mwalushai, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quand on discute sur la problématique de la communication dans cette zone opérationnelle entre la population, les autorités militaires et ainsi de suite, après les analyses, vous avez compris, et qu'est-ce qui a été comme le mal qui ronge cette bonne communication?
La bonne communication est entamée par les intox, les infox et les rumeurs. Vous savez, nous sommes dans une zone où la communication va dans tous les sens. Donc l'ennemi manipule la communication. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent avec une vraie information, mais a du mal à passer dans le fief de certains de nos compatriotes, tout simplement parce qu'ils ont vu les images, ils ont vu les intox et autres commentaires de certains leaders ou bien jeunes influents dans les réseaux sociaux. Et ça, c'est un problème. C'est vraiment un combat que nous sommes en train de faire le tout possible pour renverser la situation. Les services de communication des forces armées, ensemble avec ses partenaires, travaillent du jour au jour pour que la communication opérationnelle et la communication institutionnelle prennent le dessus. Donc nous remercions les partenaires, surtout les organisateurs de cet atelier, parce que c'est une occasion pour nous pour donner la vraie information, pour donner les méandres de la communication et ce que la population doit éviter pour ne pas faire le jeu de l'ennemi. Nous devons communiquer tous positivement sur les opérations et aussi s'il y a des réclamations et même des erreurs que nous avons constatées, que ce soit du côté de la population ou soit du côté de l'armée, nous avons des institutions, nous avons des services habilités où nous devons nous adresser. Donc nous devons laisser nos commentaires qui découragent parfois nos militaires qui sont dans les opérations.
De sa part, la population parle plutôt insuffisante de l'information vraie de la part de l'armée. Et l'armée pointe la population d'utiliser l'intoxication. Comment mettre la nuance entre ces deux allégations?
Oui, il y a eu une compréhension après cet atelier parce que la population a compris que dans les opérations militaires, tout n'est pas à mettre sur la place publique. Il y a les non-dits. Alors, nous ne pouvons pas tout dire dans le média. Peut-être ça peut profiter l'ennemi. Alors, nous avons expliqué à la population de comprendre si les communicateurs de l'armée passent dans le média, ne peuvent jamais communiquer dans le sens de donner une information susceptible à créer des dégâts dans le fief de la population. Nous sommes là pour vous protéger et nous faisons toujours attention à ce que nous disons. Et la population a compris, surtout les participants, que la guerre a ses réalités et nous sommes obligés à nous adapter à cette communication opérationnelle pour notre bien.
Et si c'est vraiment la communication qui cause problème, comment vous pensez on peut résoudre ça rapidement parce que la population jusque-là ne vit que des intoxications à grande partie.
Nous devons maintenant multiplier les rencontres, les échanges, les sensibilisations avec notre population. Nous devons expliquer à la population et aussi nous devons écouter la population. Nous devons répondre à la population et à travers les forums, les tables rondes et nous devons éviter de le faire dans les réseaux sociaux. Donc la population a sa part de responsabilité, l'armée aussi. Donc nous devons nous comprendre. L'armée doit écouter la population et répondre dans un cadre bien donné.
Capitaine Anthony Malchaï, merci.
C'est moi qui remercie Radio Capi.
Fin de notre grande édition du journal Parler, coordonnée et supervisée par Alain Hirong Mouchinj, mise en onde par Dieudonné Nyangasa. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.